Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Stéphane.
Et on va parler d'un film qui a un titre un peu passe-partout en français, hein, qui est Carnage. À ne pas confondre donc avec, je crois qu'il y a un film de Polanski, c'est ça hein.
Il y a un film de Polanski qui s'appelle
notamment
comme ça,
ces dernières années,
Jodie
voilà.
Foster et John C. Reilly, hein, mais je crois qu'aussi il y a une série B horrifique dans les années 80.
Et nous, c'est pas du tout de ça qu'on parle en fait. On parle d'une série B plutôt des années 70, qui s'appelle le titre original, c'est Prime Cut de Michael Ritchie. Et c'est avec quand même un casting de gros durs, quoi. Lee Marvin en tête, face à Gene Hackman, période French Connection.
Et complété par Sissy Spacek, qui faisait ses débuts, je crois.
Voilà, c'est ça. Sissy Spacek, la carie de Brian De Palma, notamment. Un petit pitch, Arnaud ?
Bah écoute, allons-y. Donc c'est en fait c'est Lee Marvin, il interprète un homme de main de la mafia un petit peu quoi. Oui c'est ça, un type qui est appelé sur des contrats quoi en gros.
À Chicago. Pour,
voilà. Il vient de la ville effectivement, c'est important de le préciser. Et en fait il est envoyé par ses commanditaires dans le Kansas, à Kansas City plus exactement, pour aller raisonner un bandit local là, qui s'appelle Marianne, c'est son nom, et qui est interprété par Gene Hackman, donc qui, sous couvert d'activités dans l'agroalimentaire, hein, il a des troupeaux de bétail, enfin comme il y a dans le Kansas, quoi, des troupeaux de bétail, des champs de blé, tout ça, il fait beaucoup d'abattoirs, de boucheries, sous couvert de ça, c'est quelqu'un qui a des activités en fait interlope, qui est en cheville avec le monde de la mafia, qui est impliqué dans le trafic de drogue, la prostitution,
ouais,
tout ça.
Même, j'ai même envie de dire la traite des blanches, parce que là, à ce niveau-là, c'est...
Ouais, la traite humaine.
La traite humaine, ouais. Parce que là, c'est quand même hallucinant. C'est,
Ouais, non, il y a une scène de malade, là, au début du film, vers le début, quoi, on va en reparler, peut-être. Mais voilà, en gros, c'est ça, et comme... je crois qu'il retourne pas assez d'argent dans le système, quoi, Gene Hackman. On lui envoie cet homme de main qui est joué par Lee Marvin pour le raisonner, le remettre un peu au pas, quoi, parce qu'il fait un peu trop ce qu'il veut, quoi, le type. Et donc, voilà, c'est un gangster citadin qui débarque chez les bouseux et qui va devoir se colter à ce monde-là, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et si c'est passé, qu'on peut préciser justement que donc elle interprète une prostituée qui travaille pour Marianne, une très jeune prostituée quand même. Je sais pas, je crois qu'elle devait avoir même à peine 20 ans quoi à cette époque-là.
Alors elle avait, je crois, 22 ans quand elle a tourné le film, mais ils la font passer pour une beaucoup plus jeune.
Elle avait ce visage un peu enfantin là. Et donc une prostituée que Lee Marvin va tenter de sauver. Et elle qui va s'attacher à lui. Il n'y a pas de relation amoureuse, hein, évidemment. Alors, il faut préciser que sur le plateau, c'est une petite anecdote, Michael Ritchie voulait tourner une scène de cul entre Sissy Spacek et Lee Marvin. Et Lee Marvin, ça a été l'objet d'une violente dispute parce que Lee Marvin a totalement refusé. Il ne voulait pas coucher avec une gamine, en simulé à l'écran, quoi, mais avec une gamine de 22 ans, quoi. Et il trouvait ça dégueulasse et il a fermement signifié à Ritchie qui lui a insisté. Enfin, ça a été l'objet d'une dispute assez violente et la scène n'est pas là. Hein. Marvin a obtenu gain de cause, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'il avait raison aussi, Marvin, parce que je pense que ça aurait nui à la relation entre les deux personnages, quoi. C'est une relation assez touchante, hein, entre un gros dur de la ville, piste paumée.
Et puis ça n'aurait pas donné une distinction en fait avec les méchants, quoi, parce qu'en fait le personnage de Gene Hackman a un frère. un peu con-con là, sur les bords.
Un oui, gros, oui, un gros redneck. Hein,
ouais, ouais, voilà. Un gros beauf, là. Et en gros, ce mec-là...
Il tape les gens avec des saucisses.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il fait, en fait, dans le film. Lui, pour le coup, il va se comment dire... il va se servir dans leur...
Dans le cheptel.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour eux, c'est du bétail, exactement, voilà, comme leur bétail, quoi.
C'est pour ça que je parle de cheptel. Bah, on peut le dire, hein. Il y a cette scène hallucinante, vers la fin du premier tiers, là, où Lee Marvin débarque là-bas et tombe au milieu d'une sorte de foire, comme une foire à bestiaux. Il y a tous les éleveurs, les amis de Marianne qui sont là, ils sont tous attablés dans une grange au fond, autour d'un repas de tripes, de saucisses, de trucs comme ça. Ils sont en train de rigoler et tout. Et en fait, dans la grange, il y a des paddocks là, avec des barrières en bois, mais au lieu qu'il y ait des animaux dedans, il y a des filles à poil, quoi, qui sont droguées. Et les acheteurs viennent là, font leur marché, prennent telle fille, et trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là que Marvin va voir ce qui se passait, qu'il va tenter de l'extraire de ça pour l'arracher à cette horreur. Quoi, tu vois, parce que c'est voilà. Et alors c'est la manière un petit peu dont est présenté le personnage de Gene Hackman qui est en train de bouffer des tripes face à ce spectacle avilissant. Et
puis des trucs assez, ça a l'air assez, même moi qui suis un viandard, c'est quand même pas terrible, ça a pas l'air terrible. Alors, quoi.
C'est bon les tripes.
Oui, enfin bon.
Moi j'aime bien les tripes, ouais. Stéphane.
Okay,
mais mais bon, ouais, il est présenté comme une sorte de personnage assez atypique, hein, même dans le polar de cette époque. C'est-à-dire c'est un redneck, mais en même temps c'est un type qui a su s'élever socialement un peu au-dessus de cette condition, quoi.
C'est pas tout dans mon souvenir, c'est pas tout à fait un redneck. C'est un mec qui vient de la ville, mais qui en fait qui a récupéré la ferme en question. Le mec, je crois même qu'ils ont un échange avec Lee Marvin où il lui dit t'es pas d'ici, mon gars. Toi,
ouais.
Arrête de faire comme si.
Mais il s'est implanté dans l'économie locale. Ah, il partait, hein. Tu vois, il est copain comme cochon avec les. Puis son frère, lui, comme tu le disais, t'es un vrai redneck, hein, ouais. Tu vois. Donc je pense que je crois, il faudrait vérifier après, mais je crois qu'en fait le personnage a vécu là, il a émigré après, puis il est revenu faire fortune ici, quoi. Il me semble que Marvin c'est pareil, parce qu'en fait ils ont une relation avec la femme de Gene Hackman. Il y a une scène assez sympa là, sur le bateau aussi là, qui a été avec les deux en fait, qui a été la maîtresse de la petite copine à l'époque de Lee Marvin quand ils étaient plus jeunes, et qui maintenant est mariée avec Gene Hackman, qui en a fait une poule de luxe, enfin lui parce qu'il est richissime avec son industrie et puis ses magouilles, il a gagné des montagnes de pognon. Donc voilà, en gros c'est ça la dynamique. Mais c'est vrai que le personnage de Gene Hackman est assez étonnant, c'est un personnage mi-bouseux, mi-homme d'affaires, mi-gangster, mi-ogre aussi, parce que voilà les pratiques qu'il a, quoi, quand même, quoi. Donc voilà, le point de départ, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est un... On peut peut-être parler un petit peu de du réalisateur, Michael Ritchie, quoi. Michael Ritchie, c'est un...
Qui est mort il y a maintenant une vingtaine d'années, à peu près. Hein. Ouais. Assez jeune, d'ailleurs. Il avait 63 ans, je crois, quand il est mort.
Voilà. Je crois que c'est une crise cardiaque ou un cancer, un truc comme ça.
Et qui est un réalisateur, en fait, qui a eu... Enfin, qui a fait beaucoup de films un peu différents, mais qui était un peu un comment dire.
Moi, je peux même pas appeler ça un petit maître. Hein. C'était.
Non,
c'était...
C'est, je pense que c'est un yes man. Voilà. C'est un des proto yes man en fait.
Et alors, il y en a toujours eu de toute façon, je pense. Mais oui. Mais lui, c'est un cas d'école parce que c'est-à-dire, c'est un yes man qui a passé sa carrière. C'est pas bien brillant, hein, sa filmo. Il y a pas mal de films. Mais il y a quand même beaucoup de mauvais films. Et c'est un réalisateur qui a passé sa carrière à suivre la tendance, quoi, à travailler pour les studios et à faire là où on lui disait de faire et de faire des films tendance. Alors, il a eu une petite spécialité à l'échelle de toute sa carrière, on peut le voir, qui est le film sportif, la comédie sportive, mais il a fait des drames aussi sportifs. Il a fait beaucoup de films comme ça. Un de ses derniers, là, avec James Woods et Lou Gossett Jr., là, c'était un film de boxe, là, La Nuit du Défi.
Ah oui, oui. C'est Michael Ritchie, ça.
Ouais, c'est Michael Ritchie. Il a fait, par exemple, dans les années 80, un film qui est très mauvais, qui est, je ne me rappelle plus le titre français, qui s'appelle Wild Cats. Qui était un Goldie Hawn movie, là, tu vois, flic, là, où elle joue encore une énième pétroleuse, une nana qui va former jeunes délinquants à devenir une équipe de.
Il est surtout très connu pour.
De football américain.
Il n'est pas très connu, mais en tout cas, il est connu. Son film le plus connu, c'est Golden Child.
Ouais,
avec Eddie Murphy. Quoi.
Ouais, Golden Child. Avec
bah, qui a été un gros carton dans les années 80.
Voilà. Et
qui était un projet à la base pour John Carpenter. Et que Carpenter a refusé.
Oui, parce que c'est une comédie fantastique. Et puis, Eddie Murphy, donc la grosse star de l'époque. Alors, voilà, il a fait un véhicule pour Eddie Murphy qui n'est pas bien brillant à l'arrivée.
Ah non, c'est mauvais. Hein.
Je pense qu'on est allé le chercher pour ça aussi, parce qu'il venait de faire Fletch avec Chevy Chase. Ouais, ouais. Il en a fait deux. Il a fait, après, en 89, il a fait Fletch aux trousses. Non. C'était le premier qui s'appelait Fletch aux trousses en France. Aux États-Unis, c'était Fletch. Et le deuxième,
Autant
c'était... Autant n'emporte Fletch, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
Je suis pas sûr que celui qui a réalisé le deuxième
Fletch
aussi.
Lives. Ouais, ouais, si c'est lui qui a réalisé le deuxième, d'accord, aussi. Hein. Ouais, et le deuxième est encore pire que le premier. Et le premier, c'était une sorte de film à la Flic de Beverly Hills, avec la musique de Harold Faltermeyer, Chevy Chase qui se baladait en survette et en jean et en basket pendant tout le film.
Voilà. Tout ça pour dire que c'est un réal qui suivait la tendance.
Voilà, et c'est étonnant parce que même dans les débuts de sa carrière, on voit, moi je pense à un film comme La Poursuite Infernale, peut-être, ou je sais plus, mais c'est Downhill Racer, c'est un film de ski avec Robert Redford et Gene Hackman déjà, qui est d'une mollesse effroyable ce film, et qui, ça date de 69, il y a un petit caméo de, enfin c'est pas un caméo, il débutait, il faisait le figurant de Sylvester Stallone, qui, ouais, qui était tout gros à l'époque, là, bien joufflu. Mais bon, bref, c'est un film typiquement des prémices du nouvel Hollywood, qui est très lent, qui se veut psychologique, qui est très chiant, où il se passe pas grand-chose. Ouais. Vraiment, c'est un film très ouaté, comme ça, là, qui se passe dans la neige. On a l'impression de d'être dans des vacances de neige horriblement chiantes. Quoi, c'est...
Avec tes moon boots, t'arrives pas à marcher, t'essayes d'aller jusqu'au chalet.
Ah ouais, non, mais c'est horrible. Et
t'as
bon,
oublié un truc dans la voiture, il faut revenir.
Tu vois, ça n'a rien à voir, ce film-là, par exemple, stylistiquement, dans le ton, tout, avec Fletch ou Golden Child. Ça, c'est des films
typiques. Prime Cut non plus, c'est-à-dire que Carnage... Voilà.
Et alors, c'était pour arriver à Prime Cut, toi, je disais, voilà, en gros, c'était une victime de la mode, le mec, il a toute sa carrière, il a fait ça. Et Prime Cut, on arrive à cette époque-là, Prime Cut, c'est 72, c'est l'époque, c'est la même année que Deliverance, c'est un an ou deux avant, il y avait Les Chiens de Paille de Sam Peckinpah. Voilà, on est dans cette époque avec ces survival très violents qui n'hésitent pas à montrer la violence de l'Amérique profonde, tu vois. Bon, Les Chiens de Paille, c'est pas pareil, c'est en Irlande, mais le héros est américain, le réalisateur est américain. Voilà, il y a cette tendance-là à cette époque-là, donc c'est pas très étonnant. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films, hein, de Michael Ritchie, quoi. Et bon, après, tout est relatif, mais c'est quand même un de ses meilleurs films. Mais c'est pas très étonnant de le. On peut la première fois se dire, ah bon, tiens, le gars de Fletch ou de Golden Child qui a fait ça, tiens, c'est étonnant. Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'il était dans la tendance à cette époque-là, en faisant ça, quoi, clairement.
Après, c'est pas Les Chiens de Paille ni Délivrance, Prime Cut. Il y a plus, je trouve, des racines. Alors, c'est pas du tout adapté d'un polar, d'un roman de gare, mais il y a des racines de roman de gare, clairement, dans le film. Tu sens que ça pourrait être un truc qui aurait pu être écrit sur un bout de papier rance et en fait publié pour être lu comme ça, un petit récit rapide, 80 pages, 100 pages, tu vois, et voilà quoi. C'est un film d'ailleurs assez court, hein, il fait 1h25, 1h30 même pas. Moi je trouve qu'il tire un petit peu en longueur quand même, hein, c'est-à-dire qu'il vaut pour moi pour deux raisons principales, c'est-à-dire que t'as le face-à-face Lee Marvin et Gene Hackman qui est quand même assez cool, quoi. Et puis une grosse scène d'action finale.
Alors, y a
pour les amateurs de shotgun et de.
Mais
et
qui
de...
est longue quand même, parce que oui. Si tu pars. Moi, j'aime beaucoup. C'est une des meilleures scènes du film avant même la confrontation, c'est la montée en tension, là. C'est ce plan où. Enfin, cette scène où t'as en gros Lee Marvin, parce qu'ils ont essuyé des pertes avant avec ses hommes de main, il y en a qui ont été butés, tu vois. Et là, Lee Marvin, il en a juste plein le cul, quoi. Donc, il prend les deux derniers hommes de main qui lui restent, quoi. Ils prennent la bagnole, ils partent de Kansas City, puis ils vont en pleine campagne là, dans la propriété de Gene Hackman.
Pour les fumer.
Voilà. Et alors, t'as cette scène où ils remontent une route droite, comme ça, le long des champs de blé, là, comme il peut y en avoir au Kansas, là, avec un ciel hyper chargé, des éclairs, il y a un énorme orage. La musique de La Louche Chiffrine, qui est super, moi, je trouve, la musique du film. La musique de La Louche Chiffrine qui monte en tension, comme ça. Et, tu vois les trois mecs dans la bagnole qui sont en train de charger leur gun avec lunettes de soleil et tout. Et moi, j'aime beaucoup ce plan-là. Et après, ça ça, je veux dire, c'est pas juste une montée en pression mensongère.
Non, après, c'est une chouette scène d'action.
Ouais, t'as quand même Lee Marvin au volant d'un 30 tonnes, là, d'un gros truck là, qui charge dans la,
après,
dans la verrière. Et c'est une scène réelle. Hein, ils ont défoncé une verrière. Ouais.
Mais t'as deux, trois trucs comme ça. Mais après, le problème, c'est. Alors, comment dire, c'est une chouette scène d'action. Après, elle est filmée un peu
lambda. Michael Ritchie, c'est ni Sam Peckinpah, ni John Borman. Hein,
mais je dis ça par rapport au fait que, justement, tu as dans le film quelques idées intéressantes. Par exemple, si tu veux, comme ils utilisent justement les décors, tu as notamment en fait, un jeu de cache-cache dans les tournesols. Et voilà, c'est pas, il y a pas la topographie en fait des lieux est pas hyper travaillée.
Avec la moissonneuse batteuse.
Non, je parlais encore même dans quand ils sont en train de se chercher avec les flingues. Voilà. Ouais, vrai, la moissonneuse batteuse, c'est en gros c'est la mort aux trousses version.
C'est la mort aux trousses. Ouais, je crois même que Richie ne s'en cachait pas. Ouais. La moissonneuse batteuse, elle est rouge.
Avec un truc cool quand même dans cette scène, c'est l'arrivée de l'homme de main, le chauffeur de Lee Marvin en fait qui balance sa bagnole en fait dans la moissonneuse batteuse. Pour l'arrêter, qui sort et qui fume le mec direct.
On ne sait pas ce qui va. C'est toujours marrant dans les scènes d'action quant à ça, où en fait, ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire, mais le spectateur se dit mais qu'est-ce qu'il fait c'est vrai que c'est assez étonnant. Et je pense que cette scène où il y a, juste avant la confrontation avec la moissonneuse batteuse, où il y a quelques plans comme ça assez longs, un peu contemplatifs, de Lee Marvin en train de fuir dans les blés avec sa 6-6 Spacek, dans les champs de blé comme ça à perte de vue. Je pense que c'est des scènes qui ont sans doute fait germer l'idée dans l'esprit d'Yves Boisset pour Canicule, parce que c'est quand même c'est l'image qu'on retient de Canicule, c'est Lee Marvin qui était un peu plus vieux, toi, et un peu plus habillé, un peu plus old school, quoi, mais en train de courir dans des champs de blé avec.
Surtout que Canicule, Yves Boisset a utilisé Lee Marvin vraiment comme l'américain typique en fait du roman de gare, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'c'est ce que traîne derrière lui Lee Marvin à l'époque, hein, clairement. Mais il l'a vraiment utilisé de cette manière-là pour le confronter, pour le coup, au bouseux français, quoi. Mmh. Donc, mais bon, ça, c'est un autre film. On en parlera peut-être un jour, hein. Mais voilà, c'est qui est beaucoup plus en plus étrange que Prime Cut à la fin, vraiment, parce
Oui, c'est déviant. Ouais.
Voilà. Mmh. Alors que Prime Cut, c'est plus Prime Cut.
Bon, après, il y a deux trois trucs déviants dans Prime Cut. On a parlé de cette scène de la foire au prostitué.
Le film s'ouvre en fait sur le bétail qui se fait emmener dans les trucs, et encore une fois, moi qui suis pas végétarien, hein, même moi je trouve ça
peu... Non mais c'est pire que ça, Steph. Ouais. C'est-à-dire la scène d'ouverture, c'est effectivement toute la chaîne dans l'usine là, à viande là, de Marianne là. On nous montre, la caméra suit toute la chaîne là, du moment où on bute la vache jusqu'au steak. Mmh. Hein. Mais le problème, c'est que dedans, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, quoi ? On voit à un moment, il y a le frère de Marianne donc, qui est là, qui surveille les opérations, et dans la machine, a commencé à découper la viande, on voit un cul.
Ouais,
on voit un cul. Et en fait, ils ont buté un type, quoi, et ils l'ont transformé en saucisse pour après l'envoyer au mec de Kansas City, justement,
De Chicago,
tu vois, pour leur dire voilà vos émissaires, ce qu'on en fait, quoi, tu vois. Ils leur envoient vraiment emballer avec le frapper du seau du boucher, tu vois, tout ça. Donc il y a des idées un peu dingues, assez déviantes comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire ce truc, le frère de Marianne qui a tout le temps une saucisse à la main, là, en train de bouffer une saucisse. Et puis dans la scène finale, sa confrontation avec Lee Marvin, là, son mano à mano, quoi. Il se jette sur lui en hurlant. Et
il a une saucisse
à la main. Et il a une saucisse dans la main et il lui plante la saucisse plusieurs fois dans le dos comme s'il lui plantait un couteau. Et Lee Marvin, il réagit même pas. Quand tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Ouais, mais le film réagit par contre, parce que justement, quand il l'assomme et qu'il le fout par terre, t'as un gros plan. Après, t'as un espèce de zoom comme il y en avait à cette époque-là, en fait, sur la main avec la saucisse, quoi. Genre au cas où tu l'avais pas vu, quoi. Mais après, voilà, c'est un film un peu étrange comme ça, mais je trouve qu'il tente des trucs et qu'il les récupère pas. Par exemple, leur relation justement entre ce personnage-là et Gene Hackman, son frère, dans le film. Il y a une scène où ils se foutent un peu sur la gueule, là, comme peut-être deux frères peuvent le faire, tu vois. Et en gros, ça va pas plus loin. Y a pas, tu vois, il y a pas un truc un peu craspec avec ça. Il y a pas un truc un peu, où tu comprends que Gene Hackman est attaché à lui d'une autre manière plus tard dans le film. Tu vois, enfin, c'est vraiment une scène comme ça qui presque fait du remplissage, je trouve. En fait, t'as l'impression qu'ils avaient besoin de. Et moi, je trouve que c'est un peu un des soucis du film, c'est que t'as des scènes. T'as pas mal de scènes comme ça où, oui, au final, ils essayent de t'as l'impression qu'ils essayent de raconter un truc qui connecte pas avec le début et la fin, quoi. Mmh, tu vois. Et c'est assez, c'est même pas des tranches de vie, en fait. C'est parce que c'est un récit hyper linéaire, hein. Je trouve, on se perd un petit peu, tu vois, dans ouais, ce que bon, ça raconte pour revenir à l'essentiel à la fin, c'est-à-dire, bon, bah, on saute sur la gueule et.
Après, c'est encore une fois, c'est typique de Michael Ritchie, hein. C'est un gars qui a souvent, ses films sont beaucoup trop longs, moi, je trouve, même si c'est pas des trucs de 2h30.
Et là, pourtant, c'est 1h25, quoi.
Voilà, mais, et beaucoup trop long pour ce qu'ils ont à raconter. Et on voit que c'est quelqu'un qui dans tous ses films, il a, en gros, il a une ligne directrice, il a une idée, quoi. Et il tire à la ligne. Je me rappelle ce film aussi. Il a fait quelques films avec Robert Redford là au début de sa carrière. Là, le candidat, je crois, où il jouait un homme politique, là, démocrate. Lui, ça, ouais. Et c'est ça va.
Dans des plans qu'on retrouve dans Le Grand Détournement.
Voilà, tout à fait. Et c'est pareil. Ce film, c'est en gros, c'est l'histoire de l'émergence comme ça d'un candidat démocrate, d'un mec qui est un peu atypique dans le milieu politique. Et c'est tout. Il y a que ça, quoi. Et le personnage de Redford est d'un monolithisme, mais il ne va pas plus loin littéralement que la phrase que je viens de dire. C'est-à-dire scène après scène, c'est ah vous voyez, il est atypique. Et ça se termine comme ça. C'est voilà.
En fait, t'es un fan de Michael Ritchie. Tu t'es tapé tous ses films, quoi.
Non, mais j'en avais déjà vu. J'en ai vu d'autres pour le podcast là, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a il a une carrière, ce gars-là, qui n'est pas la carrière la plus brillante du Hollywood des 40 dernières années, quand même. C'est un réalisateur, encore une fois, il y en a eu beaucoup, hein, des réalisateurs comme ça, quand même, mais c'est un réalisateur de studio, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'on lui disait de faire. C'était pas non plus quelqu'un qui arrivait à subvertir ça, à avoir un talent suffisamment évident pour rendre le truc. Ses films, la plupart du temps, ont été oubliés, hein.
Oui, oui, celui-là, il est.
Même quand bien même ça a été discuté, Fletch a été un très gros succès à l'époque aux États-Unis.
Il y a encore un petit culte autour du film. Hein.
Aux États-Unis, ouais, parce qu'en France, pas du tout.
Non, bah, en France, ça n'a jamais été un carton en France.
Bon, hein. À part ma femme qui aime beaucoup Fletch, je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas compris. Mais.
Faudra lui offrir le 4K.
Voilà. Mais non, mais c'est vrai que la majorité des films de tu vois, je te disais là, le film sportif, moi, par exemple, ça, je l'ai découvert pour le podcast, tu vois, je ne l'avais jamais vu, Wildcats, là, avec Goldie Hawn. Un film assez marrant parce que dedans, dans l'équipe de football de Marlou, là, qu'elle doit entraîner, t'as Milkety Williamson, Woody Harrelson, Wesley Snipes, tu vois, t'as toute la génération à venir là, de jeunes loups. Et,
mais il a tourné avec des stars. Hein. Il a tourné avec Burt Reynolds, il a tourné avec.
Et ces films-là, ça a été du succès, mais Wildcats, tu vois, c'est un film qui a disparu de la circulation, quoi. Mmh. C'est comme beaucoup de films de Goldie Hawn de l'époque. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait dans l'industrie de son époque, mais qui n'a pas cherché à faire plus que ça, quoi.
Et en fait, il est visible où ? Parce que moi, j'ai le Blu-ray, mais américain. Ouais. Zoné. Alors déjà, c'est zoné. Zone
en France,
A, je crois.
Il n'existe pas.
Et
je crois qu'il n'est même pas sorti en DVD, ce film, en France, non ?
Si, je pense quand même, non. Ouais. En tout cas, le DVD était sorti à une époque aussi, puisque je l'avais acheté à l'époque aussi. Mmh. Et moi, c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt sympathique en le revoyant, enfin, en le découvrant, hein, pour le coup, dans les années 2000.
Non, mais c'est sympa,
encore
une fois, c'est un bon film.
Mais là, je me suis un petit peu plus...
Moi, je trouve que c'est un film... c'est plutôt un bon film, c'est un film recommandable. Je veux dire, les gens qui aiment Lee Marvin et Gene Hackman, je pense qu'il faut qu'ils le voient. Surtout Lee Marvin.
C'est plutôt cool.
Il a quand même 2-3 morceaux de bravoure dans le film, quoi. Puis il est toujours égal à lui-même, impeccable, impérial.
Voilà, il envoie quelques patates.
Voilà. Ouais. Ouais. Et puis voilà, donc non, c'est et puis c'est une curiosité quand même. Alors,
c'est une curiosité, c'est vrai qu'on a un petit peu éventé les passages what the fuck.
Ouais, mais il faut les voir, quoi.
Ah oui, il faut les voir.
C'est notamment la scène de la foire aux prostituées, là, il faut quand même la voir pour y croire, cette scène.
Cette scène, la scène d'ouverture, hein, le truc où il...
Non, moi je le recommanderais. Les gens qui l'ont pas vu, qui aiment bien les curiosités comme ça, venues des années 70, là, qui était une époque un peu foutraque, où il y avait un peu de tout, moi je leur recommande, quoi. C'est un truc, c'est quand même un truc à voir. Ouais.
Bon, écoute, recommandé. Arnaud Bordas approuve.
Ernest
Bordeaux approuve. Ouais. Voilà. Merci Arnaud.
De rien, merci à toi Stéphane. Merci aux auditeurs, aux tipeurs.
Aux tipeurs qui te permettent d'être en face à face et en fait régler certains problèmes techniques, on va dire, puisque à chaque fois qu'on se parle sur les autres podcasts, en général, ça fait.
Et merci à Alain, merci à la technique!
Merci Alain, merci à la technique aussi, exactement. Pour nous soutenir, l'adresse c'est tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis vous pouvez écouter nos podcasts, comme d'habitude, hein, sur les plateformes habituelles, c'est-à-dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça. Toutes ces plateformes sur lesquelles je ne vais jamais, mais je suis contractuellement tenu par Alain Mercier avec un flingue sur la tempe de les citer, quoi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre film.
Adios, muchachos.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.